Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la 23e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Let's use the next 2 weeks to get the job done.
C'est pas du vent. Wow. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la 23e conférence des Nations Unies sur le climat qui vient de se terminer à Bonn en Allemagne ne restera pas dans l'histoire comme celle qui aura fait avancer les négociations internationales. Mais ce qui rassure, c'est la mobilisation des États, des villes, des entreprises et des citoyens qui s'unissent pour inventer des solutions afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont tous venus présenter leurs projets à la COP23.
C'est pas du vent sur RFI.
Après le premier tour du monde en ballon sans escale et l'aventure Solar Impulse durant laquelle il a relevé le défi de faire un autre tour du monde en 17 étapes avec un avion fonctionnant uniquement avec de l'énergie solaire, Bertrand Piccard lance l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de regrouper tous les gens qui ont des solutions rentables pour protéger l'environnement. Pas quelque chose qui nécessite des tas de subventions, mais quelque chose qui peut créer des emplois, qui fait du profit, qui soutient une croissance, mais qui soutient une croissance propre, qui est bien meilleure que le statu quo sale qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a des milliers de ces solutions partout, mais elles ne sont pas assez connues, et elles ne sont souvent pas du tout utilisées alors qu'elles pourraient l'être. Et le but de cette alliance, c'est de permettre à tous ces porteurs de solutions de se fédérer. Ensuite, nous leur procurons des contacts avec des experts qui viennent d'entreprises ou de grandes institutions internationales, des contacts avec des investisseurs pour qu'ils puissent grandir. Et ensuite, on va amener ces solutions nous-mêmes au gouvernement, gouvernement au pluriel. Ça peut être pour des pays ou à l'échelon d'une ville, parfois c'est tout aussi efficace. Et on va encourager sur la base de ces solutions-là, les gouvernements à adopter des politiques environnementales et énergétiques beaucoup, beaucoup plus ambitieuses. Parce que c'est... Les politiques vont être basées, grâce à ces solutions, sur la réalité de ce qui existe et pas sur des négociations ad minima entre des partis qui essaient de ne pas bouger.
Ça, c'est un petit tacle à ce que vous avez observé durant cette semaine à la COP23 ?
C'est un tacle à tout ce que j'observe dans les politiques environnementales et énergétiques qui basent les négociations sur l'idée fausse qu'on n'a pas de solution ou que les solutions sont trop chères. Mais aujourd'hui... La moitié de l'énergie qu'on utilise est gaspillée par des systèmes archaïques, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans la construction, que ce soit dans les chauffages, l'air conditionné, l'éclairage, les processus industriels, la distribution de biens. Tout ça, ça gaspille 50% de l'énergie, alors que les technologies d'aujourd'hui permettraient déjà de résoudre la moitié de ce problème. Et puis pour le reste, il faut encore de l'innovation, mais il faut que l'innovation soit tirée et pas seulement poussée. Aujourd'hui, on pousse l'innovation avec beaucoup de subventions, alors que si on mettait des cadres légaux assez ambitieux, assez sévères, on tirerait toute cette innovation sur le marché parce qu'on en aurait besoin pour atteindre ces buts.
Et donc, il faut faire connaître ces bonnes innovations. Donc, c'est votre idée avec cette alliance. Vous avez déjà identifié 480 solutions. L'objectif, c'est d'en identifier au minimum 1000 en un an. Alors, parmi les 480 solutions que vous avez déjà identifiées, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Alors, les solutions vont s'adapter plus précisément en fonction des pays. Dans des pays où il y a beaucoup de moteurs à combustion, par exemple, avant de passer toutes les voitures à l'électrique ou à l'hybride, il y a une société allemande, Sigon, qui a inventé un boîtier qui s'installe en une heure sur la voiture, qui hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène avec les gaz de combustion, qui permet de réinjecter cet hydrogène dans le moteur. Vous baissez de 95% les particules et de 80% la consommation d'énergie. Et puis vous avez, à l'autre extrême, tout ce qui permet à des gens qui vivent off the grid,
en dehors des réseaux,
en dehors de tout réseau électrique, des gens qui ne sont pas connectés au réseau, et c'est 1,2 milliard de personnes, et bien il y a tout ce qu'on peut leur offrir pour produire leur énergie sur place, ce qu'on appelle les microgrids. C'est des ensembles de batteries et de panneaux solaires ou d'éoliennes qui permettent de produire de l'énergie pour la lumière, pour des tracteurs électriques, etc. Donc on voit que tous les pays, qu'ils soient déjà développés ou en développement, peuvent profiter financièrement, économiquement de cette croissance propre. Et c'est un facteur de paix sociale, c'est un facteur d'enrichissement local, C'est extrêmement important de voir ça. Les pays qui n'ont pas accès à des sources pétrolières et qui doivent importer du pétrole, non seulement polluent, mais en plus s'appauvrissent. Donc il faut complètement transformer cette vision de la protection de l'environnement qui est chère et ennuyeuse en une protection de l'environnement qui aujourd'hui peut être rentable et excitante.
Alors, je partage ce constat, mais en même temps, quand on parle des petits réseaux solaires, petites éoliennes, etc., notamment pour les zones rurales, mais il y a aussi des projets qui sont déjà en cours pour de grandes villes, ça existe déjà. Donc, quels vont être les critères pour sélectionner telle ou telle solution? Il en existe des milliers aujourd'hui.
Mais c'est justement des solutions qui existent déjà, que je veux promouvoir.
Oui, mais comment vous allez choisir au milieu du foisonnement? Vous avez un comité d'experts?
Alors, on a un comité d'experts et le but, c'est que ce soit rentable et que ça protège l'environnement. Et il y a déjà tellement de solutions qui répondent à ces deux critères-là. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir se connaître entre elles, d'avoir des investissements, d'avoir plus de crédibilité et qu'ensuite, moi, je puisse les amener au gouvernement pour dire, mais voilà ce qui existe.
Et alors, si je suis détentrice d'une solution et je me dis, j'ai envie, moi, de proposer ma solution à ce comité d'experts, je fais comment?
Alors, vous écrivez par le site solarimpulse.com et vous inscrivez comme membre. Et on a toute une équipe à la Fondation Solar Impulse qui ensuite se met en contact avec vous pour vous aider à faire votre inscription. On demande vraiment que les startups ou les entreprises qui nous rejoignent expliquent ce qu'ils font, expliquent comment ils le font. Et ensuite, ça part vers les comités d'experts. Et si la solution est jugée crédible et rentable, elle entre dans les 1000 solutions, dans le défi des 1000 solutions.
Et vous en avez donc déjà 480, vous allez sans doute dépasser les 1000 en un an.
Mais vous vous rendez compte qu'au moment où on a fait la première assemblée constituante de l'Alliance, donc à COP23 à Bonn, on a déjà plus de 460 membres et pratiquement 500 solutions. Il y a des gens qui sont venus de Singapour exprès pour pouvoir nous rencontrer, amener leurs solutions. Et nous, maintenant, on a cette responsabilité de les amener à haut niveau. Et c'est comme ça qu'on avancera.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
From Lima to Paris to Marrakech, the process has been opened up to a huge number of non-party stakeholders. And these thinkers and doers have become vital allies in the delivery of our mission.
Et s'il y a un lieu où il y a bien besoin d'innovation, ce sont nos villes. Elles abritent plus de la moitié de la population et consomment 60 à 80% de l'énergie produite au niveau mondial. Les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre sont directement associées aux espaces urbains. Alors quand des maires s'engagent à limiter l'impact de leur agglomération, c'est une excellente nouvelle. C'est justement l'un des objectifs de la Convention des maires, comme nous l'explique Frédéric Vallier, le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe.
La Commission européenne est à l'initiative d'un programme qui s'appelle la Convention des maires, qui a d'abord été lancé en Europe, et puis depuis quelque temps, on a décidé d'élargir cette Convention des maires à d'autres territoires dans le monde, à la suite de la COP21, et notamment en Afrique subsaharienne, et où les villes prennent le leadership sur l'action énergie-climat sur leur territoire, mais il fallait un opérateur et une organisation pour soutenir le lancement, et donc nous le faisons avec plaisir.
Combien de villes font partie de cette convention aujourd'hui?
Alors pour l'instant, il y a 10 villes pilotes qui sont engagées dans la réalisation de plans d'action climat sur leur territoire, mais la convention s'adresse à beaucoup plus de villes, donc on a déjà une quarantaine de villes qui sont engagées, mais c'est vrai qu'on a une dizaine de villes pilotes qui là sont engagées plus lourdement, si je peux dire, puisqu'en fait on va voir avec elles quelles solutions on trouve sur le territoire pour ensuite utiliser ce qu'on trouve dans leur travail et le disséminer à l'ensemble des villes africaines.
Il y a des enjeux transversaux, évidemment. L'accès à l'énergie, j'imagine, est prioritaire.
Alors, l'accès à l'énergie est évidemment une question très importante. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir comment on peut organiser un développement des villes qui soit le plus neutre possible au niveau du carbone. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau parce que, évidemment, la Convention des maires en Europe, elle a pour objectif de réduire l'empreinte carbone des territoires européens. En Afrique, on peut difficilement demander aux villes de s'engager à réduire leur empreinte carbone. Évidemment, si elles le peuvent, c'est très bien. Mais comme ce sont quand même des territoires qui sont en développement et qui ont besoin d'un développement, qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de facilité eau, de facilité déchets, etc. Tout ça, ça peut générer de la consommation en carbone. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut inventer un modèle de développement qui soit neutre en carbone. Et je pense que c'est une opération extraordinaire parce que ça peut montrer que les villes africaines peuvent être à l'avant-garde, finalement, de la lutte contre le changement climatique. C'est l'invention du 21e siècle, finalement. On invente un nouveau développement, on invente de nouveaux modèles de développement, et c'est ça qui est fantastique.
C'est pas du vent sur RFI.
Well, my name is Luko Aguerrias. I'm the Lord Mayor.
Je m'appelle Luko Aguerrias. Je suis le maire de Kampala depuis 2011. La question de la protection de l'environnement était prioritaire pour nous. Et nous devions également nous occuper du défi du changement climatique. Nous sommes donc rentrés en contact avec différents partenaires comme l'Union européenne, l'Agence française de développement, qui nous ont assistés dans l'élaboration de notre plan d'action contre le changement climatique que nous avons établi en 2006. Je dois dire que c'est un projet très ambitieux car nous devons prendre en compte différents secteurs comme les émissions de CO2, le fait de rendre Kampala plus verte, ou même le problème des transports. Et en tant que ville, nous avons eu beaucoup de chance en étant choisis comme projet pilote pour cette nouvelle structure appelée la Convention des maires. Et nous sommes une des rares villes qui a bénéficié de l'appui de cette convention.
Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ?
Nous essayons d'explorer les différentes possibilités de transport doux. C'est un projet que nous testons à Kampala et nous voulons voir si cela peut fonctionner, non seulement à Kampala ou dans Uganda, mais aussi dans la sous-région. Nous travaillons aussi sur la gestion des déchets solides et voyons de quelle manière nous pourrions les recycler, car nous avons un énorme problème de traitement des déchets. Donc nous sommes face à ce gigantesque challenge. Mais nous essayons de voir comment nous pourrions réduire la production de déchets, mais également comment les utiliser pour d'autres usages comme le biogaz. Et si cela est possible, nous pourrions aussi, en partenariat avec le secteur privé, explorer la possibilité de créer de l'électricité à partir de ces déchets. Mais cela est encore à l'état de projet et nous devons traduire cela en action. Alors, même si Kampala n'est pas une ville industrielle, nous devons absolument faire notre part dans la réduction des émissions de CO2. Et notre objectif est de les réduire de 22%. C'est un projet ambitieux pour nous, mais nous sommes déterminés à prendre ce chemin.
Thank you very much.
Ah, you're most welcome. Thank you.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Alors moi je m'appelle Ndjuga Sakho, je suis président de la commission du développement durable, du cadre de vie, de la gestion du littoral et de l'aménagement urbain de la ville de Dakar.
Dakar, qui est une des rares villes africaines à avoir fait un plan climat.
Alors, ce plan climat-là, signé dans le cadre de la Convention des maires, nous permet donc de pouvoir d'abord travailler sur le système d'information, avoir les outils qui nous permettent de bien apprécier la cartographie des vulnérabilités. Le deuxième aspect, envisager aussi la formation, donc le renforcement des capacités de toutes les personnes qui sont préposées à travailler dans ce domaine. Le deuxième volet concerne les actions, les plans d'action. Nous avons donc un paquet d'activités qui nous permettent, donc, depuis le pilotage institutionnel, de pouvoir faire l'état des lieux sur le terrain. Comment travailler avec les ONG, avec le secteur privé, avec les acteurs du climat, pour pouvoir faire de la formation, faire du bilan carbone, agir sur, par exemple, des projets d'efficacité énergétique. Et enfin, le volet financement. Sur le volet financement, Dakar avait déjà mobilisé auparavant, avant même la Convention des maires, beaucoup de ressources, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelait le DMFP, Dakar Municipal Financial Programme. Donc, il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, le plan climat se propose d'être une synthèse de l'ensemble de ces démarches-là.
Quelles sont les vulnérabilités que subit Dakar aujourd'hui ?
Les vulnérabilités, vous les imaginez, d'abord, Dakar est une presqu'île. Nous avons l'érosion côtière, nous avons la pollution, nous avons des problèmes liés à la mobilité, nous avons les problèmes de l'urbanisation incontrôlée et de toutes ses conséquences, hein, l'habitat spontané, etc. Et vous imaginez aussi que Dakar concentre 80% des activités économiques du pays, y compris les activités industrielles, y compris le port de Dakar, avec toutes les pollutions de toute nature.
Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour limiter donc les émissions de la ville de Dakar, qui, comme toutes les villes africaines, grossit de jour en jour ?
Une ville, c'est d'abord des fonctionnalités, c'est des services. Il faut que tout le monde puisse accéder à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, à l'éclairage public, etc. Aujourd'hui, on est en train de revoir tout l'éclairage public de la ville pour utiliser du LED au maximum. Dans d'autres domaines, nous avons travaillé avec ONU Habitat pour la restructuration des quartiers spontanés. Arafat, Grand Médine, qui est en cours aujourd'hui, qui permettent de pouvoir permettre à ces habitants-là d'accéder à l'eau, à l'électricité et d'avoir une énergie à bon marché et puis une énergie propre. De la même manière que l'État du Sénégal est en train de travailler sur un système de transport collectif, parce que le transport, comme vous le savez, individuel ne règle pas les problèmes de pollution, donc un transport collectif. Et ça permettra de pouvoir réduire aussi les émissions et surtout, surtout la pollution.
Merci.
Je vous remercie.
Chaque conférence sur le climat est l'occasion de découvrir de nouvelles coalitions sur de nouveaux thèmes. La COP23 a été particulièrement riche en annonces. La création de l'Alliance pour la sortie du charbon, par exemple, réunit 20 pays qui militent pour se débarrasser de cette énergie fossile qui produit encore 40% de l'électricité mondiale. L'Alliance solaire internationale est plus ancienne. Ségolène Royal, envoyée spéciale pour la France au sein de cette alliance, nous rappelle de quoi il s'agit.
Sur la constitution de l'Alliance solaire, on peut dire deux choses. La première, c'est que ça a été fait pendant la conférence de Paris sur le climat. Et à ce moment-là, il y avait une quarantaine de chefs d'État présents pour lancer l'Alliance solaire, qui était une des coalitions phares de l'application concrète de l'accord de Paris sur le climat. La seconde chose, c'est que ensuite, le leadership a été pris par l'Inde et la France et que nous travaillons activement pour faire en sorte que cette alliance solaire se traduise par des projets opérationnels.
Alors, il y a un peu de chemin encore à parcourir. Hein. Oui. Elle sera lancée au mois de janvier. Oui. Mais l'objectif actuellement, c'est de mettre en place un cadre pour, au départ, une quarantaine de pays et maintenant plus de 120, je crois.
Alors, au départ, c'est tous les pays qui sont entre le cancer du tropique et le cancer du Capricorne qui sont concernés. Donc, c'est 121 pays. Ensuite, il y a eu un accord cadre qui a été fait. Donc, il faut que les pays soient intéressés, rentrent dans l'alliance, signer cet accord et le ratifier. À l'heure où je vous parle, 44 pays l'ont signé, 15 l'ont ratifié. Donc l'accord est entré en application. Et entre maintenant et janvier, nous allons tout faire pour monter en puissance sur le nombre de pays qui auront ratifié cet accord. Mais parallèlement, nous travaillons déjà sur quel projet opérationnel nous allions nous lancer.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de quelques-uns d'entre eux ?
Alors, il y a 4 projets opérationnels. Le premier, c'est l'irrigation solaire en zone rurale. Le second, c'est les panneaux photovoltaïques sur les toits en autoconsommation. Le troisième, c'est l'autonomie énergétique solaire des petites îles et des territoires déconnectés des réseaux. Et le quatrième, c'est la mobilité solaire pour les 2 et 3 roues.
Et alors, ça veut dire quoi, lancer ces projets ?
Ça veut dire que l'idée de la coalition, c'est quoi ? C'est de dire, si plusieurs pays se mettent ensemble pour faire les mêmes appels d'offres, on peut diviser les prix par 2 ou par 3, par plus. Pourquoi ? Parce que si vous commandez 1 million ou 2 millions de pompes solaires, ce n'est pas pareil que si un pays en commande 10 pour le village à côté. Donc, et en plus, ça permet d'avoir en face de soi des entreprises qui ne font pas la pluie et le beau temps. Le rapport de force est quand même inversé. Et surtout, ce que beaucoup de pays constatent, c'est que parfois, des entreprises sont venues, ont installé l'énergie solaire, puis ont disparu, sont reparties. Et donc, il n'y a pas l'entretien. Et moi, j'ai exigé que dans les cahiers des charges soit inclus l'entretien sur plusieurs années. Donc, on surveille le sérieux des entreprises, la limitation du nombre d'intermédiaires qui souvent prennent la totalité de l'argent. Et puis, les gens n'envoient pas les projets sur le terrain. Donc, cette ingénierie collective doit permettre d'aller plus vite, de faire moins cher et de faire plus sérieux.
Restez sur RFI dans quelques minutes, juste après le flash d'infos. Nous vous ferons partager le dynamisme des porteurs de projets des initiatives climat de l'Afrique francophone. À tout de suite.